Rav Mendel Asimov est en ligne avec nous à présent. Bonsoir, Rav Asimov.
Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation.
C'est nous qui sommes très heureux et d'ailleurs honorés de vous recevoir en un moment qui est très important pour nous tous et encore plus pour les Lubavitch, dont vous dirigez le Beit Lubavitch sur l'Île-de-France, puisque nous nous apprêtons à fêter le Yud Tet Kislev. Alors le Yud Tet Kislev, c'est ce qu'on appelle le Rosh Hashanah des Chassidim, parce que c'est une date très importante qui marque la libération de l'Admour Hazaken de prison, qui lui-même est le fondateur de la dynastie des Lubavitch. Alors, pour vous, c'est un jour de lumière, forcément. C'est un jour de libération pour nous tous, quoi. Un jour de libération, donc bah, à nos niveaux, les uns et les autres, on est marqués par cette idée.
Alors, exactement, c'est que la raison pourquoi on célèbre ce grand jour, c'est parce que quand l'Admour Hazaken il était mis en prison parce qu'il était accusé d'avoir collecté de l'argent pour Israël, que c'était quelque chose d'interdit à l'époque, et il a reçu l'invitation des grands maîtres qui sont venus du monde céleste, et il a dit pourquoi j'ai mérité d'être en prison. Il a dit parce que tu as diffusé trop l'enseignement profond de la Torah, l'enseignement caché. Et il a posé la question, alors un jour quand je vais sortir, je dois arrêter. Alors il a dit bien le contraire. Une fois que tu vas sortir, tu vas encore faire plus de diffusion de cet enseignement. Alors il a posé la question, mais comment c'est compatible avec ça, la raison pourquoi je suis rentré en prison? Et alors ils ont répondu, parce que jusqu'à présent, il y avait dans le monde céleste, il y avait un décret contre ce dévoilement de la chassidoute. Et une fois que tu vas, que t'es passé par la prison, le décret va être annulé. À ce moment-là, tu pourras diffuser autant que tu veux. Et c'est pour ça que c'est un jour qu'on, par tradition, depuis tant d'années, qu'on, tous les ans, on célèbre cette, ce jour-là par tous les grands maîtres et on essaye de faire partager cette joie pour montrer la valeur de l'enseignement de la chassidoute.
Alors, celui dont vous parlez et qu'on appelle aussi le Baal HaTanya, parce qu'en fait, à Torah Caché qu'il a dévoilé, c'est son fameux livre qui s'appelle le Tanya, a dit, entre autres, il a dit « Celui qui se réjouira de ma libération, je le ferai sortir de l'étroitesse vers la largesse. » Et cette idée de prison et de libération nous rappelle à nous, juifs contemporains, inévitablement, la situation des otages. Ces otages qui, d'ailleurs, pour la plupart, venaient de milieux qui n'étaient pas très religieux ou pas du tout, et qui tous, sous une forme ou sous une autre, racontent qu'ils ont vécu des moments de très grande proximité avec Dieu. Par exemple, Omer Shem Tov qui dit, on lui demande « Qu'est-ce que tu faisais tous les jours dans les tunnels ? C'était quoi ta journée tout seul ?» Il dit « Ben, en fait, au final, mes journées se résumaient, je parlais avec Dieu. » Voilà, c'était mes journées. Je parlais avec Dieu le matin, il se levait, il disait « Bonjour Abba, bonjour Papa, comment tu vas ?» Et d'autres ont raconté des histoires infinies. On voyait hier un otage qui a été libéré et qui était au stade du Beit HaYa Yerushalayim, au stade Télicolec, et on lui a proposé de se convertir à l'islam. Il a dit « Non, moi je suis... Vous m'avez fait prisonnier juif, je mourrai juif. » On a plein d'histoires comme ça. Au Festival Nova, les gens... torse nu le jour de Simchat Torah, donc rien à voir avec la religion, au moment où on les enlève, où ils croient qu'ils vont mourir, ils récitent le schéma Israël. Des histoires incroyables. Quelle réflexion, Rav Mendel Asimov, ces histoires qu'on a tous connues, vous a amené? Qu'est-ce que vous êtes dit en entendant ça?
Alors, je vais vous expliquer. Moi-même, je suis un descendant des chassidim qui ont été mis en prison en Russie. Il n'y a pas si longtemps de ça, il y a 80 ans, 90 ans, ils ont été mis en prison uniquement parce qu'ils pratiquaient le judaïsme, parce qu'ils avaient une identité juive. J'ai même un arrière-grand-père de ma femme qui n'est jamais revenu, qui a été soi-disant appelé pour être interrogé parce qu'il était moël dans la ville de Homo et qu'il n'est jamais revenu. Il a laissé sa femme avec 6 enfants et elle est restée, si on peut dire, veuve ou séparée de son mari, 70 ans avant qu'elle-même elle quitte ce monde. Alors, en fin de compte, sacrifier sa vie pour le nom de Dieu, pour l'identité juive, ça a toujours été une expérience dans toutes les générations. Un petit peu plus, un petit peu moins, on le souhaite à personne. Et dans ces moments-là, comme pendant la Deuxième Guerre mondiale, que les gens ils savaient qu'ils allaient finir leur vie, ils disaient « animami », ils disaient des choses qui étaient contradictoires, mais parce que ça touche l'identité du juif. Le mot qu'on répète, même le juif le plus simple, ça n'existe pas, mais le juif qui pratique le moins, il est aussi juif que le juif qui pratique le maximum. Et qu'est-ce qu'on dit à ces moments-là? Le Shema Israël. On donne tout pour l'identité d'un juif. Et même quand on est prêt à, qu'on nous offre des choses, qu'on nous dit, on voit dans la Deuxième Guerre mondiale, ils ont déporté des juifs de France qui, ils avaient rien d'autre que porter leur nom. Et qu'ils ont dit, on n'est pas prêt à porter un autre nom si ça c'est notre identité, ça c'est notre destin, on va arriver à ce moment-là. Et c'est pour ça, que tous ces otages, on doit les remercier et ils étaient, c'est pas uniquement eux qu'ils étaient en otage, c'est nous qu'on était en otage, mais c'était eux qu'ils étaient physiquement en otage. Et en réalité, ce sentiment-là, on le partage. Et c'est pour ça que le rabbi dit que quand un juif est en otage, ou un juif, il se trouve dans une situation difficile, tous les autres juifs, ils sont associés à lui. C'est comme un seul corps. Et quand nous on a prié Tehillim, et quand nous on a prié, c'est pas pour eux, c'est pour nous. Parce que eux, ils ont sacrifié leur vie physique, et nous, on doit faire tout sur le côté pour les aider, que Dieu les accompagne.
Mais d'ailleurs, vous avez raison, le deuxième fait très marquant de cette terrible période, c'est le nombre de gens qui ont prié, n'étaient pas forcément les plus religieux aussi, qui se retrouvaient les soirs pour faire Afrachat Rala. Le jeudi soir, que je vais raconter une histoire d'un délégué du Vahadar Rabbanim. Vahadar Rabbanim, c'est une grande association de charité. Et il me raconte, il me dit, je revenais d'une mission de Suisse, j'étais dans l'avion, tout le monde dort, je suis dans l'avion de El Al, et je discutais avec un ami rabbin. Et tout le monde dort. Et tout d'un coup, arrive un homme sans kippa, les cheveux plutôt longs, et il nous dit, vous êtes rabbin? Je dis, oui, si tu veux, on est rabbin. L'autre était vraiment rabbin. Il dit, oui, si tu veux, on est rabbin. Et la personne lui dit, mon fils est otage à Gaza. Est-ce qu'on peut faire Tehillim, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut lire des psaumes? C'est incroyable comme histoire. Jamais dans un avion, quelqu'un qui, comme ça, n'est pas du tout religieux, ne dort pas, et dit, je voudrais faire des psaumes. C'est incroyable. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire?
Moi, je peux que rajouter sur cette histoire, vous dire, ça, c'est l'identité d'un juif, qu'à ce moment-là, on n'a pas le côté physique ou le côté pratique qui peut faire la différence. On a vu des centaines des familles des otages eux-mêmes, qui sont venus remercier dans les synagogues qu'on a prié pour eux, venir mettre les tefilines dès qu'ils sont sortis, le père qui donne à son fils les tefilines qu'il a reçues, les livres, les gens qui sont déplacés pour demander sur la tombe du rabbi, qui sont venus après remercier, qu'ils ont le courage de prendre la parole dans des soirées de toutes sortes. Et la seule chose qu'ils ont à dire, comment ils ont tenu bon, et comment on aura voulu leur enlever l'identité juive. Et ça, c'est en fin de compte aussi l'image de Hanouka. Ça, c'est l'image de Hanouka qu'on était minorité parmi les majorités. Les minorités, ils ont gagné. Et comme le rabbi l'explique longuement, pourquoi on a tellement besoin d'avoir ce fiole de l'huile qu'on a trouvé pour allumer ce chandelier? On aurait pu allumer le chandelier avec des autres huiles. Quand on n'a pas, on fait avec ce qu'on a. Parce qu'on a voulu montrer qu'on est, même si on n'a pas, on a trouvé un petit fiole d'huile, c'est le miracle. D'un coup, c'est devenu un miracle. On n'a pas eu besoin de ce miracle. On aurait pu attendre une semaine, allumer des bougies avec de l'huile, nouveau l'huile. Et c'est ça que le rabbi dit, parce que l'identité d'un juif se mesure avec un petit fiole d'huile. Et le fait d'allumer ce fiole d'huile, le fait d'allumer une bougie, le fait d'aller faire Afrachat Rala, allumer les bougies de Shabbat, allumer les bougies de Hanouka, mettre les tefilines, ça, c'est toute notre valeur. La reste. C'est des choses secondaires. Et comme on dit, un juif de Kippour, c'est quoi? C'est celui-là qui vient à la fin de Kippour, qui vient écouter le chauffard. Parce que ça, c'est un vrai juif. C'est le juif qui est pur, qui n'a rien d'autre qui l'accompagne. Et c'est pour ça que le juif qui vient faire Yiskor 4 fois par an, il appelle l'identité de ses parents, les patriages, la souffrance, les difficultés que le peuple juif a vécues. Et on espère que tout ça, ça soit que du passé. Et c'est pour ça que le 7 octobre, c'est des moments très difficiles, parce que malheureusement, on a eu besoin de revivre et de nous faire vibrer cette réflexion d'identité juive, qu'il n'y a pas de couleur à personne, il n'y a pas de différence, et nous sommes tous, et quand le jour de Simchat Torah, on est venu danser avec la Torah, à ce moment-là, même le rabbin qui a perdu son fils sans le savoir, mais il savait qu'il y avait une guerre, il a dansé avec le Sefer Torah. Il a dit, parce que le fait que nous, on va danser, eux, ils vont avoir leur liberté. Et c'est ça la force de notre famille, et ça, c'est la force d'une famille en général. Quand un enfant, il se sent mal, tout le monde s'associe pour montrer la force qu'on lui donne à cet enfant-là.
Je vais vous faire un sale coup, Rav Azimov, parce que bon, vous êtes le leader des Lubavitch à Paris et en région parisienne. Alors évidemment, je vais vous dire, mais vous l'avez connu, le Rabbi. Alors je vais vous dire ce que tout le monde se demande. Et vous allez, je sais pas quoi répondre, mais d'après vous, il aurait dit quoi, le Rabbi, aujourd'hui?
Alors, malheureusement, pendant les années que le rabbi était rabbi, on a vécu quand même des périodes que le peuple juif était dans cette difficulté. La guerre de Six Jours, la guerre de Kippour, la guerre du Golfe, la guerre du Golfe, en 82, la guerre de Shalom à Galil. Et il a toujours gardé, et ça c'était en fin de compte la grande qualité du rabbi, parce qu'il était rabbi, c'est d'avoir toujours la même discussion, les mêmes propos. Et il faut juste regarder dans ses écrits, dans ses lettres, dans les discours qu'il a faits. Alors, il y avait plusieurs points. La première chose, dès le départ, même avant que les guerres commençaient, il a tout de suite encouragé. Encouragé que la terre d'Israël, c'est la terre la plus sécurisée, il n'y a pas à s'inquiéter. Et c'est ça qui a donné toute cette force pendant la guerre du Golfe, pendant toutes les guerres qu'il y avait, et surtout pour le 7 octobre, que tout le monde a regardé les sichot, les discours du rabbi. Aussi, malheureusement, j'ai oublié de citer la guerre qu'il y avait à Iran, on a vu les miracles qu'il y a eu. Et ces miracles-là, c'est le fait, parce que les Juifs, ils avaient une émouna. Même s'il y avait des difficultés, malheureusement, ça, c'est le coup de la guerre. Mais le rabbi, il avait toujours un esprit très positif. Avec les gens qui ont vécu la Shoah, avec le témoignage qu'il y a dans le livre d'Elie Wiesel, Rabbi l'a toujours regardé en avant. Il faut avancer. Et tout ce qui se passe, mais il faut l'accepter, il faut avancer dans le côté positif. Nous, en tant que chassidim, on ne peut pas dire qu'est-ce que le Rabbi il aurait dit, mais on peut imaginer que ça aurait été identique à ce qu'il a dit. Et de sortir dans les rues, comme on a fait en Israël, dans le monde entier, encourager des Juifs. Et il y a énormément des Juifs. Et c'est ça, en fin de compte, malheureusement, le côté positif des choses. Qu'il y a énormément de Juifs qui ont commencé à aller à la synagogue, de prier. J'ai un cousin qui a dit que Simchat Torah, il y avait une dame qui a débarqué à sa synagogue à Londres. Elle a dit, vous savez, monsieur le rabbin, pourquoi je suis venu? Parce que c'était à lendemain qu'il y avait l'histoire à Manchester. Et lui, il était à Londres.
Attends.
Et l'attentat. Il a dit, je suis venu parce que eux, ils pensent qu'ils vont nous raser. Moi, je vais venir et je veux témoigner qu'on est encore plus là. Alors, c'est vrai que dans chaque époque, le rabbi, il a dit qu'il faut rajouter encore plus. Faut faire encore plus. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a un verset qui dit, Me'at rocher, Me'at or, pardon, Docheh ha'vechosher. Un peu de lumière peut repousser l'obscurité. Comme on voit, quand il fait sombre, on allume une bougie et la pièce entière, elle est allumée. Elle est éclairée. Et ça, c'est en fin de compte tout le sens de la diffusion de la Torah, la diffusion des mitzvot et la diffusion d'études de Chassidut, de donner une valeur à une chose et ne pas mettre de considération aux choses négatives. Tout le monde est positif, tous les juifs sont bons. Il faut juste donner la chance que cette lumière dans le cœur, elle s'éclaire comme les bougies de Hanouka.
Et avec aussi le constat qu'on a pu, vous parliez de la guerre avec l'Iran, l'Iran attaque Israël, il n'y a pas un missile qui passe la première fois. Hein. 100% d'arrêt, tous les experts disent que ça n'existe pas à 100%. Puis après, bon, il y a eu d'autres choses, par exemple, on voit, bah, déjà tout simplement, la guerre commence Simchat Torah, finit Simchat Torah. Bon, appelez ça coïncidence, coïncidence incroyable. 2 ans plus tard, le même jour, les otages sortent. Et d'ailleurs, 2 ans, quelqu'un m'a fait remarquer que c'est le nombre d'années qu'a passé Youssef Youssef en prison. Alors, vous allez faire une... Vous êtes d'accord ?
100%.
Parce que je ne vais pas parler Torah devant vous, quand même. Alors, je vous demande ce que vous en pensez, vous.
Parachat de la Choumash, la semaine prochaine. Rachidi, 2 ans.
2 ans.
Mais quand il était là-bas, il avait une grande mission aussi. Il a enseigné le côté spirituel à tous les prisonniers qui étaient là-bas avec lui. Il était le rave de la ville.
Le Beit Lubavitch organise donc pour ce Yud-Tet qui se lève, que vous nous avez expliqué, la libération de l'Admour Hazaken, lundi 8 décembre, c'est lundi prochain. Sous ce qui est d'ailleurs le plus grand chapiteau du monde, je ne savais pas, moi, c'est sur la pelouse de Reuilly, vous savez, c'est juste à côté du bois de Vincennes, à Paris 12e, une soirée. Et on peut s'inscrire sur les différents sites des Lubavitch. On a toujours un Lubavitch qui est Chaliar, il y a toujours un Beit Lubavitch à côté de chez soi. Et donc, juste pour le noter, c'est lundi 8 décembre, c'est à 20h, et c'est au Cirque Phoenix. Si vous vous demandez c'est quoi le Cirque Phoenix, c'est très simple. C'est l'un de ces chapiteaux que l'on voit tout le temps. Moi, j'y ai même emmené mes enfants. Que l'on voit tout le temps sur à Reuilly, quoi, juste à côté du métro, je sais pas, Porte Dorée, je crois. Là-bas, dans le 12e. Rav Asimov, c'est toujours un plaisir considérable de vous avoir comme invité sur Radio Shalom. Rav Mendy Asimov, je vous remercie d'avoir été l'invité de Radio Shalom. Bonsoir à vous.
Merci beaucoup, et merci à vous, et merci de nous associer à la fête du Tet Kislev. Je voudrais juste rajouter et finir que cet événement-là a commencé il y a plus que 50 ans. On est passé dans tous les salons de Paris. On a commencé avec l'Hôtel Moderne qui était à République, pour ceux qui ont une bonne mémoire de l'époque, dans les années 70, au fin 60, c'était à République, une grande salle que tout le monde faisait les fêtes là-bas, toutes les organisations. On est passé par tous les salons de Paris, Mutualité, Mogador, Casino de Paris, etc. Et cette année, nous avons l'occasion d'être dans le plus grand chapiteau, qu'on a 5500 places, et rentrer libre, et pouvez tous venir participer. Merci beaucoup encore une fois, et que Dieu donne la possibilité que d'ici là, on aura la paix en Israël,
amen,
et dans le monde entier, avec la venue de Moshiach.
Amen. Et c'est à partir de 20h, voilà, je l'ai sous les yeux là, 20h, lundi prochain, lundi 8. Merci à vous, Rav Mendy Asimov, bonsoir.
Merci beaucoup, au revoir.